Émile Bataille, La bande de Neuilly, Paris, 7 janvier 1892. Aujourd'hui, mardi, commence le procès de la bande de Neuilly, qui se terminera qu'avec la semaine. Un assassinat, celui du père Olivier, plusieurs faux et un nombre considérable de vols qualifiés, tel est le bilan de cette association de malfaiteurs parfaitement organisée et qui comptait parmi ses membres plusieurs types d'une instruction et d'une origine sociale supérieure au commun des récidivistes. Le véritable chef, Paul André, est un jeune homme de 27 ans, né à Neuilly même d'une famille de très braves gens qu'il a depuis longtemps quitté pour courir les pires aventures. L'existence criminelle de Paul André comprend deux périodes. Dans la première, on le trouve associé avec un nommé Garus dans la direction d'une banque interlope qu'il avait intitulée pompeusement la Banque du Crédit Universel d'Épargne et dont les seules négociations consistaient dans l'achat et la vente des titres volés. La banque André Garus était en petit une imitation de célèbre banque des voleurs de Londres. L'établissement ne prospérait pas. La police eut l'indiscrétion de mettre le nez dans les affaires des deux associés. Après une longue villégiature à Mazas, Paul André, à bout de ressources, dut renoncer à sa première vocation. C'est alors qu'il entreprit une seconde industrie n'exigeant aucune mise de fonds. La constitution d'une bande de voleurs dont il fut le capitaine, et qui avait pour objectif spécial les logements des vieux rentiers ou des usuriers vivant seuls et gardant à domicile des valeurs des bijoux ou de l'argent. Autour du chef, des indicateurs, des receleurs et des hommes d'action. Pour remplir ce dernier emploi, Paul André avait mis la main sur deux coquins déterminés, Ivorel et Gaudissart. Gaudissart, dit Perret, dit Lopez, est un récidiviste auquel l'administration a eu l'imprudence de faire remise de la relégation prononcée contre lui après de nombreuses condamnations pour vol. La grâce dont il avait bénéficié ne l'avait nullement amendé. Rentré à Paris après sa libération, il y vivait oisif à l'affût d'un mauvais coup. Ivoirel, qui aurait pu gagner largement sa vie comme dessinateur et qui excelle dans son état, est également un cheval de retour, rentré à Paris après 3 années de retraite à la maison centrale de Melun. Comme Gaudissart, un malfaiteur prêt à tout. Un personnage plus caractéristique est l'entrepreneur des pompes funèbres, Michaud, homme établi, patenté, ancien candidat au conseil municipal de Neuilly, beau parleur, s'occupant activement de politique et fort influent en temps d'élection. C'est Michaud que sa responsabilité extérieure mettait à l'abri du soupçon, que Paul André avait choisi pour principal indicateur. En relation avec tout le monde, très rhumant et très avisé, Michaud était un détective précieux pour une association de voleurs. La première victime qu'il désigna à Paul André, à Ivorel et à Gaudissart, fut son ami intime, le père Olivier. C'était en effet une victime toute désignée que ce vieux des rentiers solitaires, qui cumulait plusieurs métiers mystérieux, brocanteur de bijoux, prétendant la petite semaine, recevant dans son petit logement de l'avenue de Neuilly tout un monde d'intermédiaires suspects, de collègues en usure ou en brocante et de décavés. Michaud, qui était à peu près son seul confident, évaluait à 80 000 francs les titres, les bijoux et l'argent qu'on était sûr de trouver chez lui. Informé de cette aubaine, Paul André se concerta aussitôt avec ses deux lieutenants Gaudissart et Ivorel, et l'expédition fut fixée au 21 octobre. Ce jour-là, le père Olivier, qui rayonnait dans la banlieue, devait passer toute la matinée à Asnières pour une petite affaire de prêt sur gage. À 9 heures, Paul André, Ivoret, Gaudissart, Michaud, un commis de Michaud nommé Barré, courtier macabre qui avait pour profession ostensible d'aller faire des offres de service dans les familles qu'un œil venait de frapper, se réunissait dans un débit des vins de Neuilly où une sorte de conseil fut tenu. La discussion s'ouvrit sur une question préalable qui avait bien son intérêt. Dévaliserait-on le père Guy-Olivier pendant son absence ou attendrait-on son retour? Michaud se prononça pour l'attente. Le vieux portait toujours sur lui des liasses de titres de billets de banque. Défoncer son secrétaire pendant qu'il n'était pas là, c'était s'exposer à travailler pour peu de choses, sinon pour rien. Son avis prévalut et le père Olivier, devant rentrer vers midi, les 5 complices s'en furent déjeuner en attendant. Michaud avait arrêté tout le cérémonial de la cérévisite. Ivorel et Gaudissart, bien mis, devaient se présenter chez le père Olivier de la part d'un de ses amis, M. Carreau, car le vieillard était fort méfiant et n'ouvrait pas facilement aux inconnus. De son côté, Paul André, qui, en chef prudent, ne travaillait jamais personnellement dans les expéditions dangereuses, remit à ses 2 lieutenants une pince monseigneur, des coins pour forcer les armoires et 6 mètres de corde pour ligoter solidement le vieil usurier s'il faisait le méchant. Le plan combiné fut exactement suivi. Vers 1 heure, Ivorel et Gaudissart montaient les 5 étages du père Olivier, se faisaient ouvrir en prononçant le nom de Carreau, et quelques instants après, une voisine, Madame Laforêt, entendait un bruit de lutte, des coups répétés, des gémissements, puis quelque chose comme un râle qui allait en s'affaiblissant. C'était le père Olivier qu'Ivorel et Gaudissart venaient d'étrangler. Quand on découvrit le cadavre, les 2 misérables étaient déjà loin. Ils avaient disparu vers 2 heures, après avoir fouillé le mort, défoncé les meubles, fait un paquet de bijoux et des titres volés, et fermé à double tour la porte dont ils emportaient la clé. Il fallut quérir un serrurier pour l'ouvrir, et les voisins, terrifiés, trouvèrent le père Olivier étranglé sous un amas de matelas et de meubles que les assassins avaient accumulés sur son corps après lui avoir enlevé la tête d'un couvre-lit énergiquement entortillé. Les 2 poignets, attachés ensemble, étaient ramenés près de la tête, les pieds étroitement ligotés, et autour du cou un foulard rouge à pois blanc serré par plusieurs nœuds sur le larynx. Avant de succomber, le vieillard avait dû soutenir contre ses assassins une lutte terrible, et dans cette lutte, un des 2 misérables, c'était Ivorel, l'avait mordu profondément au bras droit pour lui faire lâcher prise. Quand le vieillard fut à bout de force, quand Ivorel l'eut garrotté, Gaudissart lui passa le foulard rouge autour du cou et l'étrangla. Les 2 complices ont donné les détails les plus circonstanciés sur cette scène horrible et fait l'un et l'autre des aveux complets. Le butin fut relativement maigre. 1 000 francs d'argent, 12 de titres nominatifs impossibles à négocier et quelques bijoux. Cependant, Gaudissart et Ivorel avaient cherché partout, fracturé tous les meubles et ventré jusqu'à un fauteuil dans l'intérieur duquel ils soupçonnaient quelques cachettes. En somme, c'était un coup à peu près manqué. Le partage se fit de mauvaise grâce chez Paul André, rue d'Orcel. Paul André, Ivorel, Gaudissart et Barré reçurent chacun 200 francs. Les 200 francs restants furent mis de côté pour Michaud, qui, retenu à Neuilly par un convoi mortuaire, n'avait pas pu se trouver au rendez-vous. Barré lui remit l'argent dans la soirée. L'entrepreneur des pompes funèbres parut fort étonné que l'expédition eût rapporté si peu et demanda si Gaudissart et Morel n'en avaient pas témoigné quelque humeur. Sur la réponse négative de son commis, Oh, il faudra que je leur donne d'autres affaires, reprit l'entrepreneur, en manière de consolation. Le lendemain, Michaud prit un visage de circonstance, s'en fut demander à la famille Olivier la préférence pour le convoi de son vieil ami, ouvrit une souscription pour l'achat d'une couronne, et dans son indignation, dénonça trois innocents à la police. Pendant plusieurs jours, ce crime commis en plein jour, dans une avenue extrêmement fréquentée, terrifia la population de Neuilly, sans que la police parvînt à en découvrir les auteurs. Et cependant, Paul André et Yvorel étaient déjà sous la main de la justice pour un vol qualifié commis à peu près à la même époque que l'assassinat du père Olivier. C'est alors que, par une intuition qui lui fait honneur, Monsieur le commissaire de police Duranton fut amené à se demander si quelques menus objets saisis sur eux ne proviendraient pas par hasard du logement du père Olivier. Il eut l'idée de les montrer au concierge, qui les reconnut positivement. Un voisin, confronté avec Ivorel, se souvint de l'avoir aperçu dans la maison le matin du crime. Quelques jours plus tard, les deux misérables faisaient des aveux complets. Et toute la bande était à Mazas. Nous pourrions nous arrêter maintenant sur les vols nombreux dont la bande André vient répondre et qui éterniseront les débats pendant 5 ou 6 audiences. À quoi bon? C'est toujours la même mise en scène. Ne retenons que les plus caractéristiques de tous ces méfaits. Le 30 juillet, Paul André, le nommé Garus, qui fut autrefois son associé dans la bande des voleurs, fracturait, 181 Faubourg Saint-Honoré, l'armoire de M. Malvaux, qu'ils avaient attiré hors de chez lui à l'aide d'une fausse dépêche lui annonçant la maladie grave d'un de ses parents. Le 30 août 1891, il volait 9 000 francs chez une dame Bénard à Savigny-sur-Orge. Le 8 octobre de la même année, Ivoret pénétrait chez une des demoiselles Youff, une vieille rentière de Neuilly, en escaladant le mur de son jardin. Il attendait toute la nuit, caché derrière un arbre, et quand mademoiselle Youff ouvrit sa porte le lendemain matin, il se rua sur elle, la bâillonna et la força de lui remettre ses économies. Après quoi, il la ligota au pied de son lit, lui prit ses clefs, et sortit en fermant la grille à double tour. Le 12 novembre suivant, Ivorel guettait une demoiselle Gouharan, marchande de curiosités rue Blanche, au moment où elle fermait sa boutique le soir pour rentrer chez elle. Il lui arrachait, en lui tordant la main, un sac renfermant 6 000 francs de bijoux, plus de 2 000 francs en or, et il prenait la fuite, pendant qu'André Gaudissart, apposté à quelque distance, entraînait d'un autre côté le public vers un malfaiteur imaginaire en criant « Au voleur !» Paul André est encore accusé, avec un nommé Charel, d'avoir, pour les besoins de l'association, fabriqué de fausses cartes d'identité et falsifié un certain nombre de cartes électorales. Mais ce sont là des peccadilles à côté de l'assassinat du père Olivier. Avec Paul André, Gaudissart, Ivorel, Garus, l'entrepreneur Michaud et son fidèle Barré, dont nous venons de préciser les rôles, le jury aura statué sur le sort de quelques comparses. Gaston André, le jeune frère de Paul André, un nommé Chaumont, un nommé Simontier, un nommé Saunier, un nommé Charel, un nommé Salles, un nommé Buffard, une fille Dubas. Ce sont pour la plupart des receleurs impliqués dans les vols, mais qui n'ont pris aucune part à l'assassinat. Au total, 14 accusés, une des bandes les plus nombreuses et les plus dangereusement organisées, qui est comparue devant le jury de la Seine. 8 juin. Nous sommes loin de l'escarpe classique, débraillée, cynique, mal ficelée, esquissant des mots à l'agent Hiroux. Jamais bande de voleurs n'eut un aspect plus bourgeois. Tous ces messieurs sont irréprochables de tenue. Complet noir, col cassé, cravate de saison. Ivorel, un des assassins du père Olivier, est un blondin timide à la moustache naissante, au parler doux, controversant sur le droit pénal, avec le zèle d'un débutant à la conférence des stagiaires. Son complice Gaudissart, avec son teint chaud et ses pattes de lapin coupées court, ressemble à un toréador en disponibilité. Paul André a la figure matoise d'un chat. Barré, le don juan de la bande, le séducteur de la fille de son patron Michaud, a gardé de sa profession de commis des pompes funèbres un aspect triste et compatissant. Quand ce jeune homme lugubre ouvre la bouche, on croit toujours entendre « Place, messieurs, la famille !» Derrière lui, un second rôle, le nommé Salle, en uniforme du bataillon d'Afrique, sanglote silencieusement. Michaud, l'entrepreneur de funérailles, domine comme un père noble toute cette jeunesse. Les beaux favoris à la russe et la belle redingote à la propriétaire, avec quelle conviction il répond à Monsieur le Président Mariage, qui lui reproche d'avoir fait 36 métiers. « Ben, j'aurais mieux aimé qu'en faire un, monsieur, et qu'il fût bon. » Ils sont 9 entre les gardes. Il en manque 3, en fuite, et un 4e, Garus, qui s'est donné un coup de couteau dans l'aine à Mazas. Sur la table des pièces à conviction, tout un attirail de voleurs saisis chez Paul André. Des rossignols, des pinces Monseigneur, des empreintes de serrure moulées en cire, et au milieu de ses instruments professionnels, une clarinette en buis. Brièvement, Monsieur le Président Mariage rappelle les antécédents des accusés. Monsieur Ivorel est un dessinateur qui a mal tourné. Pourquoi s'est-il fait voleur? La faute en est à la morte, saison. Gaudissart est un récidiviste que l'administration a omis de transporter à la nouvelle. Tous deux accusent l'infâme société. « Je suis un misérable, c'est vrai, un voleur, c'est vrai !» déclare Ivorel en essayant de grossir sa voix grêle. « Mais la société n'a rien fait pour moi !» Le premier entendu témoin est M. Duranton, commissaire de police de Neuilly, auquel on doit la capture de toute la bande. Ceci est dédié au romancier. Gaston André, le jeune frère de Paul André, était arrêté pour un vol de titre. On avait établi chez lui une souricière. Plusieurs de ses co-accusés d'aujourd'hui viennent s'y prendre. Son frère d'abord, puis Ivorel. Ivorel avait un chapeau gris. Or, le matin de l'assassinat du père Olivier, la concierge de l'avenue de Neuilly avait aperçu dans la maison un jeune homme coiffé d'un chapeau gris. Et le commissaire eut l'idée de confronter Ivorel et la concierge, qui le reconnut positivement. Quelques jours plus tard, la bande entre Ivorel était sous les verrous. Arrivons maintenant à l'assassinat du père Olivier, le seul point intéressant du procès. Il était entendu avec Paul André, dit Ivorel, qu'on irait commettre un vol chez le père Olivier, que Michaud avait signalé comme un vieil usurier ayant beaucoup d'argent chez lui. Mais nous voulions agir sans bruit, surtout sans violence, demande du président. Il n'était pas question d'assassiner. Ivorel, la main sur le cœur. Oh, cela jamais! Je suis un voleur, mais un assassin, non pas. Et pourquoi avez-vous attendu qu'il fût rentré? C'était indispensable. Il avait la clé sur lui. Eh bien? Eh bien, il nous fallait l'empreinte de sa clé. Car c'est une bêtise de prendre l'empreinte d'une serrure. Ça ne donne qu'une empreinte extérieure, qui ne sert à rien du tout. Quand on a moulé en cire l'empreinte de la clé, c'est une autre affaire. Nous n'avions d'autre idée que de nous emparer de sa clé quand nous sommes montés. Gaudissart et moi, soi-disant, pour lui parler d'une affaire de la part de ses amis, M. Carreau. Par qui le nom de M. Carreau vous a-t-il été indiqué ? Par Michaud, qui le répétait que le bonhomme était méfiant et l'ouvrait pas à tout le monde. Et pourquoi portiez-vous des cordes? Ben, pour l'attacher, s'il nous forçait d'en venir là. Tenez, 8 jours auparavant, j'avais attaché Mademoiselle Youf sans commettre sur elle aucune violence, même légère. Oui, parce que cette pauvre vieille demoiselle, que vous avez bâillonnée et dévalisée dans sa maudite maison de Neuilly, n'a opposé aucune résistance et vous a indiqué d'elle-même où était son argent. Ben, précisément. Michaud, vous avez également affirmé que le père Olivier était un vieillard débile, incapable de nous contrarier. Mais quand nous avons vu l'homme, nous l'avons jugé suspect, sic. Il a commencé par repousser la porte et sur nous en disant « Monsieur Caro, connais pas ?» Alors nous l'avons un peu bousculé et il est tombé en travers de la porte. On peut dire qu'il a donné le signal de l'attaque. Puis enfin, c'est lui qui a eu tous les torts. Il a ri. Dit Borel avec condescendance. Oh, je n'y dis pas les miens. Je suis un voleur, je ne conteste pas. Mais je proteste contre la préméditation et l'intention homicide. Aussi pourquoi le père Olivier s'est-il mis sur la défensive? Je vous jure que nous ne sommes arrivés que progressivement à la violence. Il s'était à moitié relevé et criait, me empoigné par un endroit fort sensible, au moment où j'enjambais son corps pour fuir. J'avais si peu l'intention de le tuer que je l'ai mordu pour lui faire lâcher prise. Mais il tenait bon. Et c'est à ce moment que Gaudissart est venu à mon aide et l'a empoigné par le foulard rouge qu'il portait au cou. Comme il essayait de m'assommer avec une chaise, on a été dans la nécessité de lui attacher les mains et de lui lier les pieds ensemble parce qu'il tapait contre le mur pour appeler les voisins. Enfin, Gaudissart l'a étranglé. C'est-à-dire qu'il a serré le foulard sans se rendre compte. Si j'avais su que le bonhomme étranglait, j'aurais moi-même desserré le foulard immédiatement. Et comment vous lui avez-vous entortillé la tête dans une couverture de son lit? C'était pour étouffer ses cris. Et le matelas qu'on lui a jeté sur le corps? Bon, Gaudissart avait perdu sa passe Monseigneur sur le lit. Nous avions dû bousculer toute la literie pour retrouver cette pince. Elle est tombée sur le père Olivier par accident. Enfin, après avoir fracturé des armoires, défoncé le fauteuil, fait main basse sur l'argenterie, l'argent monnayé et les valeurs, vous êtes parti. Oui, avec la ferme intention d'envoyer une dépêche à la concierge pour qu'elle montât détacher son locataire. Je l'avais même dit, Père Olivier, on viendra vous détacher tout à l'heure. C'est pour cela sans doute que vous aviez fermé sa porte à double tour, en emportant la clé. De cette façon, vous étiez bien sûr que personne ne viendrait lui porter secours. Comme nous l'avons dit hier, le butin fut maigre. Quelques titres nominatifs que Paul André, certain de ne pouvoir le négocier, adressa par fantaisie à un notaire de Paris, maître Plique, et 1 000 francs billets de banque qui furent équitablement répartis entre Ivorel, Gaudissart, Michaud, Paul André et Barré, à raison de 200 francs par tête. Avec cette différence toutefois que Barré, chargé de remettre sa quote-part à son patron Michaud, trouva moyen de lui voler 50 francs. Le président. Le portage s'est fait rue d'Orcelles, le soir, dans le logement de Paul André. À ce moment, saviez-vous que le père Olivier était mort? Oh, pas du tout, non, non, nous avons été tout étonnés de l'apprendre le lendemain par les journaux. Rire. Gaudissart, à peu de choses près, fait le même récit que son complice. Vous êtes violent, lui demande le président. Mariage. Vous avez été condamné par coup. Gaudissart, haussant les épaules. Bon, c'était pour avoir battu un journaliste. Hilarité. Enfin, c'est vous qui avez étranglé le père Olivier. Ben, c'est bien involontaire. Fallait bien qu'il lâchât Ivorel. Mais je vous assure que je n'ai pas eu de mauvaises intentions. Enfin, les choses se sont passées le plus simplement du monde. C'était une partie de plaisir. Au tour de Paul André maintenant. Monsieur le Président, vous êtes le chef de la bande? Paul André en minaudant. Le chef ou pas du tout? C'est vous qui avez convoqué Ivorel et Gaudissart, qui leur avez fourni la corde, les instruments d'effraction, qui leur avez donné toutes les indications de Michaud, les renseignements les plus circonstanciés sur la victime. Paul André. La corde? Bon, on ne veut pas servir qu'à faciliter l'évasion de Gaudissart et d'Ivorel par la fenêtre en cas d'alerte. Elle n'était point destinée à ligoter le père Olivier? En aucune façon. Les choses ont tourné comme ça, mais je n'avais pas prévu. Il s'agissait tout simplement de détourner son attention et de prendre l'empreinte de sa clé pour revenir plus tard. Vous avez partagé le prix du vol? Oui, mais j'ignorais qu'il eût été accompagné de violence. Et qu'avez-vous fait pendant que Gaudissart et Isorel étaient chez le père Olivier? Je suis allé rue Fontaine-au-Roi prendre un cheval pour les courses chez un bookmaker. Tristement, Barré, le commis Michel, de Monsieur Michaud, comme il l'appelle avec respect, se lève après Paul. André. Cet homme noir est parfaitement sinistre. Il a l'air de conduire son propre enterrement. Les pompes funèbres ne vous suffisaient pas. Vous étiez l'agent d'une société de voleurs. Barré piqué. Oh, monsieur, je ne les connaissais pas comme tels. Vous serviez d'intermédiaire entre votre patron Michaud et la bande André. Vous avez reçu 200 francs et accompagné Ivorel et Gaudissart chez Paul André après le crime. Allez-vous prétendre aussi que vous ignoriez que le père Olivier eût été assassiné? Positivement. Ivorel, seulement confié en voiture, qu'on avait un peu serré, qu'on avait été forcé de le laisser le pied et poing lié sur le plancher de sa chambre. Eh bien, lui dis-je, puisqu'il est dans une situation pénible, il faut envoyer quelqu'un le détacher. Ivorel répétait que pour 100 000 francs, il ne recommencerait pas ce qu'il avait fait. Pouviez-vous conserver un doute après un tel pareil propos? Plus solennel encore que son commis, énorme, imposant, noir de costume, noir de barbe et noir de cheveux, l'entrepreneur des pompes funèbres de Neuilly voudrait bien garder la gravité professionnelle, mais le faux chez lui reste gaillard. De loin en loin, Michaud risque une plaisanterie gauloise. On dirait d'un cocher de corbillard qui batifole. « C'est vous qui avez indiqué à Paul André, lui demande Monsieur le Président, le coup du père Olivier. Vous avez même dressé le plan de la maison. « C'était un vieil usurier, lui disiez-vous, qui devait avoir plus de 80 000 francs chez lui. Voyons, que lui avez-vous dit, Michaud ?»« Excusez-moi, Monsieur le Président, j'ai la mémoire si fatiguée. J'ai beaucoup abusé des femmes. » Hilarité générale. Vous vous vantez. Des rapports de police établissent que vous êtes très rangé, très sobre. Michaud hochant la tête. Voyons, s'il a bu du tabac et puis les chagrins, enfin, je me souviens de rien. Même pas d'avoir reçu 200 francs après le crime. J'ai mis ma chine à le bord dans ma poche. La mort de mon vieil ami, le père Olivier, m'avait tellement frappé que j'ai dû rentrer chez moi pour prendre un bain de pied à la moutarde. Mais la réaction s'est pas faite. Voyez-vous, monsieur le président, les choses se sont mal arrangées. Il s'agissait que de proposer au père Olivier un prêt de 6 000 francs à Gaudissart, qui Ivorel devait présenter sous le nom de Lopez, comme un banquier espagnol. Et le visage d'Ivorel n'est pas revenu au père Olivier, et les choses se sont gâtées. Oh, si j'avais envoyé Paul André, c'est un enfant du pays, il est connu à Neuilly, et sa figure inspire confiance. Enfin, s'agissait-il d'un prêt ou d'un vol? Michaud, timidement, d'un prêt? Ivorel, avec énergie, non, d'un vol! Paul André, eh oui, d'un vol! Michaud, très contristé à mi-voix. Eh bien, mettons d'un vol. Mais le lendemain, vous faisiez des démarches pour obtenir la commande des funérailles. et n'ayant pu réussir, vous preniez l'initiative d'une souscription pour l'achat d'une couronne. Absolument confondu, l'entrepreneur s'effondre derrière la barre. 9 juin. Toute l'audience d'hier a été consacrée au témoignage. Notons la déposition de M. le docteur Souquet, médecin légiste chargé de l'autopsie du père Olivier, qui, en comparant les morsures dont le cadavre portait la trace avec les dents d'Ivorel et de Gaudissart, a constaté que ces morsures avaient été faites par Ivorel. La plus proche voisine du père Olivier, Madame Laforêt, malade et alitée le jour du crime, a entendu le bruit de la lutte qui se prolongea plus de 5 minutes et le râle de la victime, sans pouvoir ni lui porter secours ni appeler à l'aide. Michaud, qui cherchait à lancer la police sur une fausse piste, n'avait pas craint de dénoncer comme l'auteur probable du crime un frère de cette pauvre femme qui est mort depuis 2 ans. « Oh, je voulais sauver ces jeunes gens !» déclare d'un air protecteur l'entrepreneur de pompes funèbres en désignant Ivorel et Gaudissart. « Oui, vous agissiez par humanité !» réplique M. le Président Mariage. « Certainement, M. le Président, j'ai toujours été un humanitaire !» hilarité. Une fois à Bazas, Michaud affecta la plus parfaite indifférence. Il était sûr, répétait-il à ses co-détenus, d'être bientôt remis en liberté. Il se vantait de connaître intimement des magistrats, et il écrivait à M. le commissaire de police Carpin « Mon cher ami, je ne sais pas comment on m'a fourré dans une pareille affaire. Dis donc à Boutet, le juge d'instruction, et au procureur général que je suis toujours un bon garçon, une vraie bête à bon Dieu. » Michaud proteste avec indignation contre l'authenticité de cette lettre. « Je n'ai jamais tutoyé un commissaire de police !» s'écrie-t-il avec un accent indigné. Maître Plic, notaire à Paris, déclare qu'il a été fort surpris de recevoir un beau matin, sous enveloppe non affranchie, un paquet de titres appartenant à un de ses clients. C'étaient des valeurs nominatives que ce dernier avait engagées chez le père Olivier. Les assassins, ne pouvant rien faire de titres nominatifs, avaient eu la délicate attention de les renvoyer au notaire, dont ils avaient trouvé le nom sur l'enveloppe. Le jury leur tiendra-t-il compte de cette gracieuseté ? Après l'audition des témoignages relatifs à l'assassinat du père Olivier, M. le Président Mariage annonce qu'il posera au jury, comme résultant des débats, une question aggravante en ce qui concerne Michaud et Paul André. L'instruction n'a pas cru devoir relever contre eux la question de complicité d'assassinat. Ils n'étaient poursuivis que pour complicité de recel et n'encouragent pas la peine capitale. Monsieur le Président Mariage déclare qu'il les inculpe d'office, comme la loi lui en donne le droit de complicité directe. Il y a là une chinoiserie de droit difficile à exposer, mais qui, pour les deux accusés, a bien son importance. Comme Gaudissart et Ivorel, Michaud et Paul André sont passibles maintenant de la peine de mort. Une vive discussion s'engage avec les avocats, et maître Albert Danet, qui assiste Michaud, riposte en annonçant à son tour qu'il demandera l'examen mental de son client. Avec la dernière partie de l'audience, nous entrons dans l'examen fastidieux des vols commis par la bande André. Invité à raconter son expédition chez Mademoiselle Youf, Ivorel rappelle complaisamment qu'il a escaladé vers 2 heures du matin, le 10 octobre dernier, le mur du jardin de cette vieille demoiselle. Gaudissart, lui faisant la courte échelle, qu'il a attendu 5 heures son réveil et qu'il s'est précipité sur elle au moment où elle ouvrait sa porte. Renversée et ligotée au pied de son lit, Mademoiselle Youf ne fit aucune difficulté d'indiquer à ses agresseurs où étaient ses titres et son argent. 700 à 800 francs de bons algériens et quelques monnaies. Ivorel. « Je ne voulais pas faire de mal à mademoiselle. Je suis même parti en lui annonçant que j'enverrais quelqu'un pour la détacher. »« C'est bien invraisemblable, et qui donc ?»« C'était moi, » dit Gaudissart. Je vais me présenter le lendemain chez Mademoiselle Youf comme sous-inspecteur de la salubrité publique. Mademoiselle Youf, une bonne vieille dame de 65 à 70 ans, en caracon noir et en chapeau orné de jais et de rubans passés, comparaît toute tremblante à la barre. Elle n'ose ni parler, ni regarder Ivorel en face. Monsieur le Président Mariage est forcé de lui faire avancer une chaise. La pauvre demoiselle est toujours sous l'empire d'une terreur intense et à chaque instant semble prête à défaillir. Une dernière déposition est celle de Monsieur Mavol, ventouseur rue Saint-Honoré, que Paul André avait réussi à éloigner de chez lui par un subterfuge assez ingénieux. Il avait envoyé à ce spécialiste une fausse dépêche d'un de ses clients, ainsi conçue. « Viens vite, j'ai un de mes amis qui se meurt d'une fluxion de poitrine. N'oublie pas surtout d'apporter des ventouses. » Et pendant que M. Malvaux s'expliquait avec son client, absolument ahuri, Paul André pillait son appartement et faisait main basse sur toutes ses économies. 10 juin, le verdict. Gaudissart et Ivorel sont condamnés à la peine de mort. Ce verdict est conforme aux conclusions de M. l'avocat général Groppi, qui, dans un réquisitoire des plus énergiques, avait demandé la tête des deux assassins du père Olivier. Paul André est condamné aux travaux forcés à perpétuité. L'entrepreneur des pompes funèbres, Michaud, pour lequel maître Albert Danet avait prononcé une remarquable plaidoirie, est condamné à 20 ans de travaux forcés. Son commis Barré est condamné à 10 ans de réclusion. Gaston André à 6 ans. Plusieurs comparses sont acquittés. Ce dénouement contrariera légèrement les projets d'Ivorel, qui écrivait à son complice Gaudissart dans une lettre saisie à Mazas. Quant à revenir de la nouvelle, tu peux compter qu'on en revient. Je puis avoir pour mon avocat des renseignements très exacts sur notre retour. Il les aura d'un homme qui est ici et qui s'est évadé deux fois. Il dit que c'est si facile qu'il suffit de 150 francs. Et faisant allusion à la férocité avec laquelle il avait mordu le père Olivier dans la lutte suprême, le misérable ajoutait « Nous reviendrons, dussé-je couper la gorge à 10 gardiens avec mes dents, et tu sais si elles mordent ?» Les jurés de la scène ont fait œuvre de justice en prononçant un verdict exemplaire contre le pareil bandit. La sentence de mort prononcée contre Ivorel et Gaudissart n'a pas été exécutée. Paul André, le véritable chef de la bande, ayant échappé à la peine capitale, M. le Président de la République a estimé qu'il était impossible de frapper plus sévèrement les deux jeunes bandits qui n'avaient fait qu'exécuter ses ordres. La peine prononcée contre eux a été commuée en travaux forcés à perpétuité. Fin.